Bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du lundi 25 février 2019. Abdourahmane Dia et Raissa Girondin à la présentation. Voici les titres.
Et on démarre ce journal par le Sénégal qui est dans l'attente des résultats de la présidentielle alors que la bataille des chiffres fait rage.
Au Nigeria, la commission électorale nationale a commencé à proclamer les premiers résultats de l'élection présidentielle de samedi.
Retour à Libreville du président gabonais Ali Bongo Ondimba après 3 mois de convalescence au Maroc.
Le festival panafricain du cinéma et de la télévision bat son plein à Ouagadougou. Plusieurs personnalités sont sur place pour célébrer les 50 ans du FESPACO.
La nouvelle monnaie du Zimbabwe dévaluée de plus de 60%. On verra ça dans la Minute Éco.
Et le tour cycliste du Rwanda, c'est dans les sports.
Et on démarre le journal.
Au Sénégal, les premiers résultats provisoires de l'élection présidentielle sont attendus demain, mais déjà, pouvoir et opposition s'affrontent sur la tenue ou non d'un second tour. Le camp du président sortant, Macky Sall, l'a proclamé largement vainqueur face à ses 4 concurrents. Les précisions de John Lyndon.
Les résultats compilés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection, a déclaré le premier ministre sénégalais. Il a pronostiqué au moins 57% des suffrages pour son candidat. Idrissa Seck et Ousmane Sonko, pressentis pour un éventuel second tour, ont contesté lors d'une conférence de presse conjointe ces résultats qui font entrevoir une réélection du président Macky Sall dès le premier tour. La participation à ce scrutin s'établit à 68% après dépouillement des 2/3 des bulletins. Une mission d'observation de la société civile a estimé hier le taux de participation à 42% à 2 heures de la fermeture des bureaux de vote. L'élection s'est déroulée globalement hier sans incident majeur. En outre, le candidat Ousmane Sonko a accusé des médias privés et internationaux de donner des chiffres favorables au pouvoir. Des allégations sont catégoriquement rejetées par les rédactions concernées.
Merci John Lydon qui était sur place dans nos studios.
Voilà, et je signale qu'on revient sur la situation au Sénégal dans la partie magazine. On va au Bénin. La police a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui protestaient ce lundi à Porto Novo contre le blocage des listes des principaux partis d'opposition pour les élections législatives du 28 avril à l'appel de l'Union sociale libérale de l'homme d'affaires et opposant Sébastien Ajavon. Plusieurs milliers de personnes ont bloqué le pont reliant les deux principales villes du pays, Cotonou et Porto Novo.
Et on passe au Nigeria. La commission électorale nationale a commencé à proclamer les premiers résultats de l'élection présidentielle. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Alors que la commission électorale procède par parti et par état, les deux principaux camps n'ont pas attendu les résultats officiels pour s'autoproclamer vainqueur hier après une campagne émaillée d'accusations de tricherie. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir en plus de la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans 2/3 des 36 états auxquels s'ajoute le territoire de la capitale Abuja. Sinon, un second tour devrait avoir lieu dans une semaine. La présidentielle se joue surtout entre le chef de l'État sortant, Muhammadu Buhari, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar. En plus de leur président, les Nigériens ont voté pour désigner les 360 députés et 109 sénateurs. Samedi, la commission électorale s'est dite satisfaite du déroulement du scrutin. Haïlé Mariam Dessalé, chef de la mission d'observation de l'Union africaine, a salué un vote qui s'est globalement déroulé dans un climat de paix. Mais ce sentiment n'est pas partagé par les observateurs de la société civile qui ont dénoncé des manquements logistiques et des violences électorales ayant fait 39 morts depuis samedi.
Merci beaucoup Yakuba Ouedraogo. Ali Bongo Ondimba, à nouveau de retour chez lui. Le chef de l'État gabonais en convalescence depuis 3 mois au Maroc est arrivé hier à Libreville pour une série d'activités dans son agenda. La priorité sera la tenue d'un conseil des ministres ce mardi à Libreville.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, un centre de traitement de la maladie à virus Ebola, tenu par Médecins sans frontières, a été attaqué la nuit dernière. Selon l'ONG, les 6 patients suspects et les 4 patients confirmés pris en charge à Katoua ont été transférés vers d'autres centres de traitement. Le personnel du centre a été évacué.
Et on revient sur le Gabon. Donc, je vous le disais, Ali Bongo Ondimba est de retour chez lui au Gabon. On écoute les explications de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Le patron est arrivé. Quelques jeunes partisans du pouvoir, sans doute bien introduits, viennent d'assister au passage de l'escorte présidentielle à l'aéroport international Léon-Bas de Libreville, ce dimanche 24 février à 22h en heure locale. Il a fallu attendre le jour pour s'en convaincre. Ce lundi, Ali Bongo Ondimba a en effet retrouvé son palais, moins affaibli que les mois passés, on le voit debout tout sourire, recevant les présidents des institutions pour sa première journée de travail. Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale, est rassuré et satisfait de ce premier contact de l'année avec le chef de l'État gabonais.
Mais vraiment, il est très alerte et cela m'a agréablement surpris.
Mardi, Ali Bongo Ondimba tiendra un conseil des ministres, le tout premier de l'année, et assistera à la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle prévue avant cette fin de semaine à Libreville. Difficile pour le moment d'affirmer si le retour du numéro 1 gabonais au pays est définitif ou pas. Libreville, Ismaël Obianzé pour la Voix de l'Amérique.
En Somalie, des hommes armés non identifiés ont tué 8 civils qui travaillaient à l'entretien d'une route au nord de la capitale Mogadiscio. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les islamistes Shebab ont perpétré par le passé de nombreuses attaques sur des cibles associées au gouvernement central.
Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou bat son plein avec les célébrations de son cinquantenaire. Cette année, ce sont 165 films qui sont retenus pour la compétition. Ils sont répartis dans 7 catégories, les longs-métrages de fiction, les courts-métrages, la compétition documentaire long-métrage, la compétition documentaire court-métrage, les séries, les films des écoles et les films d'animation. Nous y reviendrons en partie magazine.
La Cour internationale de justice a déclaré que le Royaume-Uni devait mettre fin à son administration de l'archipel des Chagos, dont l'île Maurice revendique la souveraineté. Le Royaume-Uni est tenu dans les plus brefs délais de mettre fin à son administration dans l'archipel, ce qui permettra à l'île d'achever la décolonisation de son territoire, a déclaré le juge Abdulkawi Ahmed Youssouf dans un avis non contraignant.
Vous écoutez toujours le journal de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui. On passe à l'actualité hors du continent africain, crise vénézuélienne. Le groupe de Lima a entamé à Bogota une réunion cruciale à laquelle participe l'opposant Juan Guaido, le vice-président américain Mike Pence et des pays de la région. Le but est d'imposer des sanctions à l'actuel chef de l'État Nicolas Maduro qui a empêché l'entrée de l'aide humanitaire à la frontière avec la Colombie. Cette réunion intervient après les violences aux frontières vénézuéliennes et après la défection d'une centaine de militaires réfugiés en Colombie. 6 déserteurs ont rejoint le Brésil.
Et par ailleurs, l'Union européenne a demandé d'éviter une intervention militaire au Venezuela et est en contact avec toutes les parties impliquées dans la crise en cours, a annoncé la porte-parole de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini.
Le président Donald Trump prolonge la trêve avec la Chine. Il s'est dit satisfait de la tournure que prennent les négociations et a annoncé que sa rencontre à venir avec le président Xi Jinping sur le conflit commercial serait un sommet pour signer un accord.
L'envoyé spécial américain pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a indiqué avoir rencontré à Doha le Mollah Abdul Ghani, cofondateur du mouvement taliban. Une rencontre qui s'est faite au premier jour de la reprise des pourparlers de paix entre les États-Unis et les insurgés au Qatar. Le gouvernement afghan continue cependant d'exprimer sa lassitude d'être tenu à l'écart des négociations en dépit d'ouvertures répétées. Les talibans ne sont pas prêts à parler au gouvernement afghan, mais nous sommes prêts, a déclaré le chef de l'exécutif Abdullah Abdullah dans un discours télévisé lundi.
Le film Green Book de Peter Farrelly, l'histoire du pianiste noir Don Shirley dans le sud ségrégationniste des États-Unis, a remporté hier l'Oscar du meilleur film et du meilleur scénario. Et Roma du Mexicain Alfonso Cuarón a décroché 3 récompenses lors d'une cérémonie à Hollywood. Retour sur les lauréats de la nuit des Oscars avec Nathalie Barche.
Et un autre film explorant les tensions raciales a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté, Black Klansman de Spike Lee, l'histoire d'un policier noir qui infiltre le Ku Klux Klan. 2 acteurs noirs ont reçu l'Oscar du meilleur second rôle, Mahershala Ali pour Green Book et Regina King pour son rôle dans Si Beale Street pouvait parler, incarnant une mère de famille en quête de justice. Alfonso Cuarón a décroché l'Oscar du meilleur film en langue étrangère étrangère pour son ode au Mexico des années 70, qui lui a aussi valu le prix du meilleur réalisateur et de la photographie. Son film Romain est entièrement en noir et blanc. Autre gagnant de la soirée, Bohemian Rhapsody, consacré au chanteur Freddie Mercury, qui a valu l'Oscar du meilleur acteur à Rami Malek, d'origine égyptienne. Et l'Oscar de la meilleure actrice a été décerné à Olivia Colman pour le rôle de la reine Anne dans La Favorite du réalisateur grec Yorgos Lanthimos.
Voilà.
Merci beaucoup Nathalie Barge pour le point sur les Oscars.
Voilà, vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Vous l'aurez deviné, on a quelques soucis techniques, mais les informations se poursuivent tout de même. Et c'est l'heure de l'actualité économique, n'est-ce pas?
Avec Nani Talani, bonsoir.
Bonsoir. La compagnie minière Genfield vient d'inaugurer une nouvelle maison de tri de rubis près de sa mine Montepuez au Mozambique. Fruit d'un investissement de 15 millions de dollars, cette maison de tri serait la première du genre pour l'industrie des pierres précieuses de couleur et serait à égalité avec les meilleures installations de tri de diamants dans le monde. Selon Ecofine, elle permettra de fournir en permanence un plus grand volume et un spectre plus large de rubis de sources responsables sur le marché mondial. Au Zimbabwe, la nouvelle monnaie vient de subir une dévaluation de 60% alors que sa banque centrale commençait à négocier une devise de remplacement, le dollar RTGS. Les économistes estiment que cette dépréciation monétaire va tempérer la demande de dollars au marché noir et va atténuer l'inflation dans le long terme. Pour finir, le Conseil international tripartite du caoutchouc veut réduire ses exportations de 300 000 tonnes pour stimuler les prix. Cette réduction va concerner principalement l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie qui fournissent 70% de la récolte mondiale de caoutchouc. Le cartel veut aussi s'accorder sur l'accélération de la consommation domestique.
Merci Nani Talani pour le point économique. On va passer avec le sport qui nous est présenté ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Aïssa et bonsoir à tous.
Cyclisme pour commencer avec le Tour du Rwanda, coup double pour Kudus.
Merci bien Raïssa. Le coureur d'Astana s'est imposé sur la deuxième étape du Tour. Un succès qui lui permet aussi d'endosser le maillot jaune des leaders du classement général. L'Érythréen a bouclé le parcours de Kigali à Ouyé sur 120,3 km en 3h02:17. Au général, Kudus possède 2 secondes d'avance sur le Polonais Zemslaw Kaperskiewicz. J'espère que je prononce bien. Le Rwandais Joseph Areruya complète le podium à l'issue de cette étape. Eh bien, l'Espagnol Pablo Torres prend le maillot de la montagne, l'Américain Timothy Rogge celui du sprint, le Français Périg Kemuner a été élu plus combatif. Areruya lui endosse le maillot de meilleur jeune.
Au Bénin, une nouvelle discipline a fait son entrée dans la scène sportive, Yacouba.
Oui, Raïssa, il s'agit du Chukball. J'espère que je prononce bien. La famille de ce sport s'est retrouvée le week-end pour renouveler son bureau à l'issue d'une assemblée générale. Les détails avec notre correspondant sur place, Élisée Mpatine.
Il y a 3 semaines, cette assemblée générale n'a pas eu lieu puisque le quorum n'était pas atteint. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et Roxero BT a été conduit pour un nouveau mandat de 4 ans. La seule liste en compétition est conduite par le président sortant qui a reçu l'aval des congressistes pour poursuivre l'œuvre entamée. Roxero BT.
Les objectifs vont globalement demeurer les mêmes, mais parce que le football n'est pas connu comme nous l'aurions voulu au terme des 4 années passées par le bureau qui vient d'être renouvelé. L'objectif sera de faire connaître cette discipline au Bénin et d'attirer plus de participants. C'est l'objectif vraiment majeur de ce nouveau mandat, de ce nouveau bureau. Attirer plus de gens, faire davantage connaître le football au Bénin. Parce que tout ce qui va se passer va venir de ce point-là qui est essentiel.
Le nouveau bureau exécutif est composé de 13 membres contre 15 par le passé. Il faut noter que le tchoukball est une discipline qui se joue entre 2 équipes sous forme de handball. Sauf que ici, les 2 équipes n'ont pas un camp fixe. Le jeu est venu au Bénin en 2009, mais c'est seulement en 2014 que la fédération a vu le jour. Cotonou, Élisée Mpatine, VOA Afrique.
Et la date du tirage au sort de la CAN 2019 a été dévoilée.
Oui, la Confédération africaine de football a annoncé que le tirage au sort de la première CAN à 24 équipes aura lieu le vendredi 12 avril au Caire, en Égypte donc. Le pays qui accueillera la compétition du 21 juin au 19 juillet prochain. Avant cette échéance, la dernière journée des éliminatoires est programmée pour les 22 et 23 mars. Pour l'heure, 14 des 24 pays qualifiés sont connus.
Le verdict est tombé pour Mpeko et le TP Mazembe.
Et oui, les corbeaux de Lubumbashi indiquent qu'Issama Mpeko sera indisponible pour 3 semaines environ, ce qui l'obligera à manquer notamment le choc contre Vita Club le 3 mars. En revanche, le Léopard sera normalement rétabli pour la prochaine échéance en sélection avec la réception décisive du Libéria le 22 mars dans les éliminatoires de la CAN 2019. Il a été victime d'une fracture de la clavicule droite à l'occasion du Classico face au DC Motoma Pembe la semaine dernière.
Merci beaucoup, Yacouba.
Voilà, c'était la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. On passe directement à la page magazine de cette édition. On démarre par la République du Congo qui s'est engagée dans le développement du numérique. Elle entend en faire un levier majeur pour la diversification de l'économie. Cela ne peut se faire sans garantir la sécurité numérique des citoyens congolais. Raissa Girondin a eu un entretien avec le ministre des Postes, des Télécoms et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, de passage à Washington.
Nous avons la base du développement de l'économie numérique dans notre pays, c'est-à-dire que la fibre optique, près de 6000 km de fibre optique déjà déployée. Nous sommes en train de finaliser cette infrastructure auprès des ménages, auprès des entreprises, pour que on puisse faire en sorte que la plupart des Congolais aient la possibilité, par exemple, d'effectuer des actes administratifs en ligne, transactions financières en ligne, d'assurer l'inclusion financière.
Quels sont les enjeux pour le pays ?
C'est de faire en sorte que, à travers l'économie numérique, on puisse diversifier notre économie. L'économie congolaise est axée essentiellement sur le pétrole. Donc, on veut créer de la valeur ajoutée, créer aussi surtout de la richesse et des emplois.
Qui dit emploi dit aussi éducation. Est-ce que il y a assez de personnes qualifiées, de jeunes qualifiés dans ce domaine d'éthique ?
Oui. On a à l'université Marie Ngwabi, qui est une grande université au Congo, la seule, on va dire, dédiée aux technologies de l'information et de la communication. Donc il y a beaucoup de jeunes, justement, qui embrassent cette nouvelle matière, et la raison pour laquelle le chef de l'État en a fait un axe central de son projet de société.
Alors avec Internet, les Congolais maintenant ont la possibilité d'avoir accès à du contenu. Comment vous voyez cette possibilité justement d'avoir accès à du contenu qui était jusqu'à là inaccessible ?
Écoutez, la révolution du digital, c'est la seule révolution que l'Afrique n'a pas le droit de rater. Aujourd'hui, il y a une possibilité pour les jeunes Africains surtout de pouvoir se démarquer et d'être décomplexés totalement. Parce que les mêmes informations qui sont véhiculées aux États-Unis, en temps réel, sont aussi véhiculées au Congo.
Est-ce que ça peut comporter des risques ?
Les risques, oui, j'allais revenir là-dessus. Nous, au niveau du gouvernement, nous avons pris des avant-projets de loi justement pour pouvoir protéger le citoyen congolais dans cet espace. Il y a la loi sur la cybercriminalité, la cybersécurité, il y a la loi sur la protection des données à caractère personnel, il y a la loi sur le commerce électronique, les transactions électroniques, mais aussi il y a une loi pour mettre en place une agence qui va être l'organe de proue justement pour pouvoir protéger les citoyens.
Comment se présente la coopération régionale en matière numérique ?
La volonté des chefs d'État africains a été manifestée à N'Djamena au Tchad pour faire en sorte qu'il y ait des interconnexions avec tous les pays de l'Afrique centrale, de la CEMAC. Aujourd'hui, on a pu finaliser une interconnexion physique entre le Congo et le Gabon, qu'on a finalisé avec la coopération avec la Banque mondiale, 513 km de fibre optique. Et nous avons un autre projet, c'est le projet Central African Backbone, que nous sommes en train d'exécuter avec un autre partenaire. C'est la Banque africaine de développement qui nous permettra d'être interconnectés avec le Cameroun et avec la République centrafricaine. Demain, on pourra avoir ces sorties qui nous permettront non plus de transiter par les sorties internationales. Non, on passera directement entre États et États voisins.
C'était Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécoms et de l'économie numérique de la République du Congo. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre site et notre page Facebook VOA Afrique.
Ouagadougou abrite depuis une semaine des manœuvres militaires Flintlock 2019. Cette opération annuellement menée depuis 2005 à l'initiative du commandement des États-Unis regroupe au Burkina Faso et en Mauritanie plus d'une trentaine de pays participants dans un contexte sécuritaire marqué par la montée du terrorisme dans les pays sahéliens. Des détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Flintlock n'aura jamais autant rassemblé de participants que cette année. Durant une dizaine de jours, 2000 militaires de 31 pays africains et occidentaux mèneront des exercices visant à renforcer leur capacité à mieux faire face au terrorisme et à l'extrémisme violent. Les formes de menaces dont font face les pays du G5 Sahel et notamment le Burkina Faso occupent une bonne place dans les soutiens bilatéraux, explique l'ambassadeur américain à Ouagadougou, Andrew Young.
Il y a les engagements qui continuent à travers l'année et par exemple, on va avoir d'autres exercice dans le futur pour perfectionner telle ou telle capacité pour faire face à tel ou tel défi. Les États-Unis sont engagés à aider les forces de défense et sécuritaires burkinabés pour faire face à cette menace des engins explosifs improvisés. Les États-Unis ont décidé de faire une contribution pour les 5 pays du G5 Sahel. En première tranche était 60 millions de dollars. Pour le Burkina, c'était 30 millions de dollars, soit la moitié de cette première tranche. Et la contribution bilatérale des États-Unis pour les 5 membres de G5 Sahel, ça a augmenté jusqu'à 111 millions de dollars.
La base de Flintlock à Lumbila abrite le poste de commandement principal auquel viennent se greffer les sites de manœuvre de Pau et de Bobo-Dioulasso. Un quartier général où l'heure est à la gestion des détails de planification, atteste le colonel Prussian, commandant du 3e groupe de forces spéciales américaines.
L'entraînement Flintlock d'abord sera basé sur le quartier général, comment planifier, envoyer donc ces informations aux deux cellules donc pour exécution. Ils vont réfléchir concernant donc la planification et après les unités vont essayer donc d'exécuter ce qui vient donc du quartier général. Dans les autres villes comme Bobo-Dioulasso, Ata, Lumbila et Pau, cela permet aux unités qui sont en place d'apporter donc leurs expériences pour donc les exercices futurs.
Les opérations tiennent compte des nouvelles menaces terroristes telles que les engins explosifs improvisés, glisse le chef d'escadron de la cellule antiterroriste du Burkina, le major Jean Bosco Sawadogo.
Les hommes sur le terrain, au fait, ne livrent pas un combat direct. C'est des capacités qu'ils acquièrent avec la participation des différents pays. Si vous prenez le cas des IED, un phénomène auquel nous sommes confrontés, il y a beaucoup de compétences, de connaissances que les différents experts vont transmettre à la partie burkinabé, qui aux Mauritaniens, qui aux uns, aux autres qui sont là, qui permettront plus tard de faire face au phénomène dont on est confronté.
Ces manœuvres militaires qui se poursuivent jusqu'au 1er mars ont un triple bénéfice pour les armées participantes. Sur le plan militaire, l'exercice permet aux participants de partager leurs expériences, d'acquérir et de perfectionner les savoir-faire dans le cadre de l'antiterrorisme. Sur le plan humanitaire, c'est une occasion de consolider l'approche globale de la gestion des conflits et crises engendrés par le terrorisme et sur le plan politique, de réaffirmer la volonté de lutter en partenariat avec les autres nations contre le terrorisme conformément aux idéaux de paix chers au Burkina Faso. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, donc merci beaucoup Issa Napon. Au Sénégal, le président de la Commission nationale de recensement des votes a déclaré ce lundi que personne autre que sa structure n'a le droit de proclamer les résultats de la présidentielle. Ceci après que le Premier ministre a annoncé que le président Macky Sall a remporté le scrutin et que l'opposition a aussi estimé qu'un second tour serait inévitable. Les résultats seront connus d'ici vendredi. Et pour en parler, nous avons en direct de Dakar le journaliste et analyste politique Alassane Samba Diop. Alassane, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahman.
Oui, alors, le juge Demba Kandji, hein, qui est le président de la Commission nationale de recensement des votes, a fait cette sortie pour réitérer un peu le processus, comment ça se passe. Qu'est-ce qui explique un peu cette déclaration?
Oui, cette déclaration du juge Demba Kandji, c'est lui le président de la Cour d'appel de Dakar, en même temps le président de la Commission nationale de recensement des votes. Vous le savez, hier au Sénégal, après la fermeture du bureau de vote, il y a eu des tendances qui étaient sorties par rapport à cette élection présidentielle. Chacun s'est précipité. L'opposition, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, sont partis dire qu'il y aura forcément un deuxième tour. Le premier ministre Mohamedou Bounabla Dione, qui est en même temps directeur de campagne du candidat sortant aussi, a fait une déclaration en disant que son candidat a gagné dès le premier tour avec 57%. La Commission a expliqué à tous les Sénégalais, c'est elle seule qui est habilitée à proclamer les résultats provisoires. c'est que si au Sénégal, les résultats des départements sont remontés au niveau du Sénat, de la Sénat et de la Commission nationale de recensement des votes. La Sénat fait son travail, transmet les résultats à la Commission nationale de recensement des votes. Elle fait le travail de contrôle, de vérification de tous les procès-verbaux qui sont sortis des bureaux et des calculs qu'ils feront. C'est elle qui proclame les résultats provisoires.
Oui,
et ces résultats provisoires sont acheminés au Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui peut déclarer définitivement les résultats qui sont sortis des urnes.
Alors, Alsan, dites-moi. Les
réclamations,
l'opposition
ou bien la partie lésée, c'est les réclamations qu'elle doit faire.
Oui, ils peuvent faire les réclamations. En fait, la presse, depuis 2000, a toujours publié les résultats bureau par bureau, donc des tendances. Et cela a toujours d'ailleurs été salué par tout le monde. Pourquoi cette année, cela fait polémique?
Personne n'a compris cette année pourquoi il y a cette polémique. Depuis 2000, la presse sénégalaise a la tradition d'aller dans les bureaux de vote, d'assister dépouillement les procès-verbaux signés par toutes les parties, et tous les partis qui sont dans les bureaux, qui sont représentés avec les superviseurs, les représentants de la Sénat, les observateurs étrangers, les journalistes assistent au dépouillement des bulletins de vote, bulletin par bulletin. Les résultats sont publiés en direct sur les radios et les états-majors, même des partis politiques, recueillent les informations que donnent les journalistes, les confrontent avec les procès-verbaux de leurs candidats. C'est en ce moment-là que les gens sont ce qui s'est passé.
Voilà.
Les radios ont tendance d'avoir des statisticiens qui travaillent avec eux, qui compilent les résultats,
voilà,
et qui donnent les tendances.
Merci beaucoup, Alassane. Merci beaucoup. On a très bien compris le processus. On continuera de suivre cette élection présidentielle au Sénégal.
Et on poursuit avec l'Afrique qui célèbre son cinéma Ouagadougou en 50 ans. De nombreux cinéastes ont brandi l'étalon d'or de Yenenga, mais aucune femme n'a encore eu cet honneur. La réalisatrice burkinabé Apolline Traoré espère changer la donne cette année avec son film D'errance en compétition officielle long métrage. Allons à sa rencontre dans ce gros plan réalisé par Arzuma Compaoré.
Alors Apolline Traoré est une réalisatrice productrice par défaut, je dis toujours par défaut parce que c'est pas vraiment ce que j'aime faire. D'errance, c'est le nom de famille de l'acteur principal dont l'ancêtre s'appelait L'amour d'errance. Donc le film en tout cas parle d'abord d'un haïtien qui a vécu la guerre chez lui au pays. Et étant donné qu'il a tout perdu dans son pays à Haïti, il essaie de se reconstruire et ce nom qui est son identité, il veut absolument donner ce nom à un garçon. Et voilà, pour que son nom soit perpétué. Et quand il apprend qu'il va avoir un garçon, il retombe dans la guerre civile de la Côte d'Ivoire.
Il va avoir un fils ?
Ma chérie, tu vas avoir un petit frère.
Mais ça va lui passer. C'est normal d'être jaloux à l'arrivée d'un nouvel enfant.
Un enfant, c'est un enfant. Et tu dois les aimer de la même façon.
Quand j'ai écrit le scénario et que j'ai commencé à envoyer à certaines personnes, les gens ont commencé à avoir peur, en se disant, oula, c'est un sujet sensible, tu vas aller en Côte d'Ivoire et tout. J'en ai parlé à mon gouvernement en leur exposant évidemment ce qu'il en était. Du moment où, pour moi, les deux gouvernements étaient au courant et qu'ils savaient mon intention par rapport à ce film, après ça, tout s'est bien passé.
C'est pas cessé. Hey,
le festival déjà m'a fait connaître dans mon pays, ça c'est un. Le festival m'a donné des opportunités de connaître aussi des producteurs, des financiers potentiels. C'est à partir du FESPACO que j'ai pu montrer en tout cas au peuple africain ce que j'étais capable de faire.
Tu m'écoutes ? C'est pas la peine que tu te fasses vieux pour rien.
Nous sommes tous contre cette guerre.
Il faut que je lui parle.
Reculez, monsieur.
Ils ont enlevé mon fils.
J'ai dit de reculer.
Il y a eu des moments difficiles, peut-être parce que j'étais une femme. Mais j'ai jamais accepté ma défaite parce que j'étais une femme. Je me suis toujours mise en disant, si j'ai pas réussi, c'est parce que je n'étais pas assez compétente. Je ne voudrais pas avoir les talents parce que je suis une femme. Il faut regarder mon film. Si le film le mérite, donnez-le-moi. Mais ne me le donnez pas parce que je suis une femme. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu faire du cinéma et j'ai toujours voulu rêver. Et mon challenge dans ce métier, c'est de partager mon rêve avec le monde. Et si j'ai un rêve que je veux partager, je ne me mets pas de limite. Du moment où je dis la vérité, ben j'ai pas peur de quelque chose.
c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous nous excusons pour ces petits soucis techniques, mais l'information était là. Voilà. À la mise en onde de Lionel Gaïma, à la présentation Abdourahman Dia et Raïssa Girondin.
Et restez en contact sur notre site internet et sur notre page Facebook. Excellente suite de programme.
Avec vous, Henri François.